Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette rencontre croisée avec Michaël Brun-Arnaud et Jérémy Payet. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, il sera question de votre album commun, Le Croc en mur, qui est sorti au printemps dernier, mais aussi de vos ouvrages respectifs, Mignon pour Jérémy, que vous avez écrit et illustré. Et pour le collector du tome des Mémoires de la forêt, qui est sorti il y a peu. Et comme d'ailleurs j'ai oublié de dire, Mignon est normalement sorti au mois d'octobre, comme attendu, on verra pour le sujet. Et donc ce collector, très joli collector, des Mémoires de la forêt. Alors, à moi de créer du lien entre ces personnages, a priori, comme ça, de premier abord, on peut se dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre Archibald, Ferdinand, Germain, le Croc en mur. Et pourtant, une fois qu'on les a bien lus et relus, il me semble qu'il y a des choses très communes entre ces trois titres, et je pense que ça tient notamment à vous, messieurs. Et donc, je vais commencer par une question très simple. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble? Est-ce que vous vous connaissiez et comment est né ce projet?
Ça, c'est toi qui vas répondre.
D'accord. Eh bien, on est ravis d'être là. Et puis, donc, avec Jérémy, on s'est rencontrés parce qu'à l'époque, j'étais encore libraire. Et j'avais eu un énorme coup de cœur pour La Fougère et le Bambou, qui était sorti, je pense, en octobre 2022. Et je me suis dit, bon, ben, puisque j'ai encore ma librairie, que je n'ai plus maintenant, je me suis dit, je vais inviter Jérémy à dédicacer parce que j'aime son travail et ça sera une manière de le rencontrer. Et il s'est trouvé que lorsque Jérémy est arrivé à Paris, je crois que c'était une de tes premières dédicaces et il était plutôt stressé. Donc c'était, c'était un
timide.
Moment... Un peu timide, un peu stressé, donc je lui ai offert un goûter d'abord. C'est comme ça que je procède toujours. Et ensuite, on est allé à la librairie et je comptais partir et il m'a dit « non, reste ». Et je me suis dit « bon, ben, je vais rester avec lui, ça pourrait être sympa ». Donc je pense que toute la journée, tout le monde a cru que j'avais écrit « La fougère et le bambou », alors que c'est un texte de Marie Tibi. Mais je suis resté assis à côté de lui. Je lui ai acheté à peu près... 8 albums de La Fougère et le Bambou pour toute la famille. Et puis, j'avais aussi cette petite idée derrière la tête de dire, en fait, j'aime beaucoup son travail et j'aimerais bien lui proposer un texte qui soit dans un univers peut-être un peu plus gothique. Parce que quand on suit Jérémy sur les réseaux, il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'il est à la fois... il offre beaucoup de douceur dans ses illustrations, mais il y a une petite partie de ténèbres.
C'est un bon mot, ténèbres.
Il y a des
jolies ténèbres.
Il y a des jolies ténèbres, il y a des choses un peu sombres. Et je me suis dit, en fait, il est capable d'allier des choses vraiment très douces et animales, mais aussi avec des choses plus sombres. Donc, je me suis dit, allez.
Allez. Et donc, ce croc en mur, est-ce que l'un de vous peut, ou Michaël plutôt, mais nous raconter l'histoire de cet album?
Alors, le croc en mur, c'est l'histoire d'un... En fait, on est dans une forêt qui s'appelle Grand Terrier, qui est une forêt... d'animaux anthropomorphes, et en fait, dans cette forêt se pose la question des départs, des morts des animaux. Lorsque quelqu'un s'en va, en fait, vu que c'est la forêt et qu'on a besoin d'être à l'abri l'hiver, on peut pas laisser un logement inoccupé. Donc en fait, lorsque quelqu'un s'en va et qu'il n'a pas de famille, eh bien, on ne sait pas quoi faire de ces logements où tous les objets sont entassés. Et donc, il y a quelqu'un qu'on appelle, quelqu'un qu'on déteste appeler, puisqu'il a mauvaise réputation, c'est le croc en mur. C'est un blaireau qui vit à l'extérieur de la forêt. Et lorsqu'il vient, personne ne lui serre la main, personne ne s'approche de lui, parce qu'en fait, il vient pour récupérer les objets des disparus. À côté de ça, on a un petit lapin qui s'appelle Edgar. Edgar, qui est un petit lapin différent de ses copains, déjà parce qu'il n'a qu'une seule oreille, et aussi parce qu'il est très courageux. Et en fait, ses copains vont lui donner le défi de suivre le croc en mur et sa carriole vers chez lui, vers cet univers mystérieux. Et il va le faire. Et là, il va découvrir le plus grand secret du croc en mur. Voilà cette histoire.
Donc, dans cet album, il est question de mémoire. Oh, surprise! Mais surtout du souvenir laissé par les morts. Évidemment, on peut faire le parallèle avec les souvenirs de mode après lesquels court Ferdinand. Est-ce que cette mémoire-là, la mémoire des morts, c'est une mémoire un peu particulière que tu souhaitais traiter différemment?
Je pense que la différence avec Mémoire de la forêt, alors c'était tous les deux tirés d'expériences personnelles. Mémoire de la forêt, peut-être d'une expérience professionnelle, celle-ci d'une expérience peut-être plus personnelle, puisque j'ai connu le deuil quelques mois après Je l'avais déjà connu, mais je l'ai connu de manière plus difficile peut-être que les autres fois, quelques mois après la sortie de Des Mémoires de la Forêt et la rencontre avec Jérémy. Et je pense que tout s'est mélangé. Et puis je me suis dit que au moment où on s'est retrouvé en fait avec mon conjoint à devoir trier les affaires de quelqu'un qui n'était plus là. Et en fait, c'est un moment extrêmement difficile dans la vie des personnes. Je pense que malheureusement, on le vit tous, on va tous le vivre. Et c'est très difficile parce que on remarque que nos émotions sont aussi attachées aux objets et que finalement, pour des choses aussi bêtes qu'une bouteille d'eau qui était sur le chevet, on a du mal à l'acheter parce que ça faisait partie de la personne. Et donc, en fait, je me suis dit, tiens, je vais réfléchir sur ce sujet-là. Et je me suis dit, on pourrait peut-être essayer de lier les personnes aux objets de manière positive, pour une réminiscence positive. Et cet album, il est né comme ça, de cette envie de cristalliser des gens. Moi, dans mon placard, j'ai le foulard de mon arrière-grand-mère, j'ai la montre de mon grand-père, et je me suis dit, et cet album, c'est pour dire à toutes les personnes qui sont là, et vous, qu'est-ce que vous avez gardé ?
J'ai noté une phrase que je trouve très jolie, que dit le croque-en-mur, et c'est son pouvoir. Je peux voir l'amour qui a été déposé sur les objets. En fait, c'est très joli, c'est très parlant. Est-ce que c'est ça, en fait, choisir ce qu'on garde, c'est repérer ce qui définit le plus ou notre relation à l'autre ?
Ben, ce qui est terrible dans le deuil et dans le deuil lorsque les choses se passent de manière assez brutale, c'est l'absence. Et en fait, l'objet est une présence. Et en fait, comme c'est toujours, on est à la recherche de matérialité pour quelque chose qui est devenu immatériel. Et on dit souvent aux enfants, mais tu sais, il est plus là, mais il est toujours dans ton cœur, il est toujours dans ta tête. Et en fait, donner une matérialité, pour moi, c'était chouette. Et de dire que certains objets, effectivement, avaient peut-être plus de matérialité, d'émotion que les autres. Dans le cas de la souris Valentine, c'est ses chaussures de danse. Jérémy, je pense que ça sera peut-être son bonnet. C'est fortement possible. Moi, les bonnes langues diront que c'est ma salopette et les mauvaises langues diront que c'est mon téléphone.
Ne me regardez pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mince. Je n'ai pas d'objet identifié encore. Il faut que j'y réfléchisse. Je vous dirai plus tard. Jérémy, vous l'avez reçu comment, ce texte ?
Quand je l'ai lu, ça a été tout de suite un coup de cœur. Je suis très entier et voilà, je me trompe rarement. Si un texte me procure une émotion, c'est plutôt immédiat. Et à la première lecture, c'était un grand oui. Donc voilà. Ensuite, le processus, ça a été assez simple parce que c'était déjà tellement visuel que les croquis se sont faits plutôt de manière très naturelle. On a une sensibilité qui fonctionne plutôt bien. Donc oui, à partir des mots, j'ai assez rapidement visualisé des choses qui allaient rendre le développement du projet visuellement assez sans trop d'encombre pour moi.
On a un des mêmes films préférés qui est Édouard Romain d'Argent.
C'est vrai.
Et comme c'était un texte qui parle aussi de solitude, je pense que ça a résonné.
De solitude, et puis moi ce qui m'a plu immédiatement, c'est aussi le fait que le personnage principal est marginal, ce qui donne tout de suite une possibilité en termes de design de personnage assez ouverte. Voilà. Moi je l'ai tout de suite visualisé comme le Ichabod Crane de Sleepy Hollow, donc avec son haut de forme, une forme peut-être un petit peu squelettique, etc. Et voilà.
La mort, ça reste, il s'appelle le croque-en-mur, j'imagine, pour un peu le croque-mort quand même.
Oui, et on a eu de la chance parce que le titre était, au début, moi je l'avais appelé le croque-mur. Et c'est Jérémy qui, au fur et à mesure des échanges, a glissé le mot « en » de manière très subtile.
Ce n'est pas l'entière vérité.
On veut
que c'était vérité. Une erreur de ma part qui s'est transformée en une heureuse coïncidence.
Mais cette erreur était vraiment, je trouvais que ça a donné vraiment tout un sens. Ce titre est beaucoup mieux que le croque-mur.
Effectivement, il y a peut-être une sonorité qui part de croque en mur. Et donc, le croque en mur représente en fait quelque chose qui reste compliqué dans notre société, qui est donc l'idée de la mort, l'idée de la perte. Et donc, on sent bien dès le début qu'il est rejeté. Est-ce que ça vous semble encore quelque chose de difficile à dépeindre ou au contraire nécessaire de mettre, parce que c'est pas du tout un album sur la mort, on est bien d'accord, c'est pas l'objet. Est-ce que c'est une façon justement de rendre ce sujet, notamment pour les enfants, plus douce, plus simple, ou une acceptation qui serait plus évidente ?
Moi, j'avoue que je ne me suis pas du tout posé cette question et j'avoue que j'ai comme vous venez de dire, je ne vois pas du tout cet album comme une histoire à propos de la mort ou du deuil. Je vois vraiment ça plutôt comme une célébration de la vie, comme une mise en image du souvenir. Et l'univers, je trouve, est finalement assez... Enfin, je parle de... Mais il y a quelque chose de finalement plutôt lumineux dans la rencontre de ces deux personnages et dans la rencontre de ces deux solitudes, comme tu l'avais dit. Du coup, pour moi, il n'y a pas cette...
En fait, c'est un postulat. C'était le même postulat, d'ailleurs, dans La Fougère et le Bambou. Dès la première page, je pense que tu as, dans ton catalogue, tu as deux albums dont la première ou la deuxième page, c'est une sorte de cérémonie mortuaire.
À vrai dire, je m'en étais pas rendu compte avant, mais
c'est les textes qu'on te propose à chaque fois. Mais c'est le début, en fait. C'est le début, et c'est effectivement... Moi, je l'ai remarqué... Je l'ai remarqué parce que j'ai beaucoup d'amis libraires, ayant été libraire, et j'ai des personnes qui ont reçu l'album en disant « Oulala, drôle de titre, je vais en prendre 3-4 et voir comment ça marche ». Donc je me suis dit, en fait, j'ai compris que ce sujet, tout le monde n'était pas à l'aise avec celui-ci, donc le tabou, il était présent même là, dans cette première interlocuteur que sont nos libraires. Et donc je me suis dit « C'est vrai que ça va être peut-être difficile. Et puis, j'ai vu avec les scolaires aussi. Et en fait, dès qu'on l'ouvre, c'est vrai qu'il se passe autre chose. On comprend que c'est le souvenir. Mais oui, pour moi, c'est une volonté, effectivement, de... Je pense, et c'est le cas pour ma série de romans, qu'on doit parler de tout avec les enfants. Je pense qu'on doit créer surtout, et la mort en particulier, puisque je pense que... Plus les sujets sont abordés, plus les résiliences seront peut-être plus faciles, moins cristallisées, moins ancrées, moins gangrénées. Je pense que c'est important de pouvoir tout aborder, tout dessiner, surtout lorsqu'on a la chance de pouvoir le voir illustré, transformé, métamorphosé par le dessin et par la narration.
Et justement, je pense que le sujet, en fait, il y a les fonds blancs. Je crois que le traitement de la couleur joue beaucoup sur le fait que cet album ne ressemble pas du tout à un album sur le deuil ou sur la mort. Et il est au crayon. Oui. Et c'est pas dans vos habitudes ?
Non, tous mes autres albums étaient faits à l'encre. Et celui-ci, c'était un pari que je me suis donné à moi-même parce que, pour être tout à fait transparent, j'étais arrivé un petit peu au bout de la technique précédente. Et le crayon permet d'avoir cette espèce de petit granulé duveteux qui apporte quelque chose de tout de suite beaucoup plus doux. Et là, pour le coup, c'était vraiment approprié. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit, c'est le moment parfait pour tester ça. Fort heureusement, j'étais plutôt satisfait des premiers résultats. Donc, c'est venu de manière assez fluide après.
Si je peux faire un compliment à Jérémy,
oui,
c'est que...
Oui. Un compliment.
Il aime beaucoup. Mais c'est un truc que j'ai jamais dit parce que je viens de m'en rendre compte. C'est que, en fait, Jérémy... Il sait, quand vous parcourez cet album, il y a des illustrations qui sont très riches. Effectivement, on voit les traits, on voit beaucoup de couleurs. Mais ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de lumière. Et en fait, il y a ce que Jérémy dessine et il y a ce que Jérémy ne dessine pas, mais que ce qu'il a dessiné suggère. Il y a une très belle illustration de la tanière du croque-en-mur avec le petit Edgar qui regarde un peu partout. C'est une salle comme ça avec un plafond voûté, avec des objets un peu partout. Et en fait, il y a ce qu'il a dessiné, qui est parfois assez sombre sur les côtés, mais ce qui ressort de ces illustrations, c'est cette lumière immense qui vient derrière Edgar. Et c'est absolument magnifique, cette manière de mettre en lumière les émotions et les personnages.
Merci. Ce qui est aussi le cas dans l'illustration où on découvre Edgar, qui est derrière la fenêtre, et où la lumière arrive aussi. Vous regarderez si vous ne l'avez pas vu, mais effectivement, sur chacune des pages, il y a un jeu de lumière, un petit côté sépia et une transparence. En fait, c'est un peu mystique, mais on dirait justement une lumière qui arrive plutôt du ciel, enfin quelque chose, en fait, ce lien ça, entre...
Oui,
mais
bon. Oui, c'est, voilà. C'est pas quelque chose que j'ai nécessairement...
Je pense que c'est un peu inconscient. Je pense que c'est un peu inconscient parce que Jérémy me parle souvent du fait qu'il a considéré, alors quand on a lu l'histoire du croque-en-mur, je veux pas vous spoiler si vous l'avez pas lu, mais il y a cette histoire de... Tu me parles souvent de relève. Pour toi, tu fantasmes sur le fait que Edgar devienne la relève du croque-en-mur. Oui. Et en fait, il y a un peu de ça, puisqu'il rentre. C'est lui qui va rapporter la lumière sur ce qu'il fait. Et c'est lui aussi qui va lui prendre la main pour montrer aux autres ce qu'il fait. Donc peut-être que tu es un petit être de lumière.
C'est possible.
Et ce futur croque en mur, alors, non, ce petit personnage qui n'a qu'une oreille, qui est donc solitaire, qui est un peu légèrement brutalisé. Enfin, on ne voit pas grand-chose, mais on peut penser que. M'a fait penser, évidemment, Brutalone aussi, précédent album de Jérémy, illustré par Jérémy. En fait, vous avez quand même une petite acquaintance, tous les deux, avec le personnage solitaire, le personnage qu'on l'a laissé de côté. Vous en étiez rendu compte aussi de ce trait commun? Et puis, est-ce que c'est quelque chose que vous portez dans votre travail?
Moi, c'est que... De manière générale, quand ma maison d'édition me propose des textes, j'ai une attirance directe et spontanée pour les textes qui traitent de ce genre de personnages. Je ne m'étais pas forcément rendu compte avant de... Parce que j'ai lu aussi Les Mémoires de la Forêt en même temps qu'on a commencé, à peu près au même moment où Michael m'a proposé son texte. Donc non, je ne m'étais pas forcément rendu compte de ce point commun, mais maintenant ça semble plutôt évident, oui. Et les prochains, Mignon dont on va parler tout à l'heure, il y a aussi ce... cette thématique qui revient.
Bah, c'est un peu notre première rencontre ressemblait à ça. Hein. On était un peu tous les deux un peu stressés par ce qui allait devenir juste après. Et puis, on s'est donné la main, en tout cas symboliquement, pour cette rencontre-là. Et puis, ça fait peut-être partie de nos histoires personnelles. Moi, j'étais fils unique. Je le suis toujours, d'ailleurs. Et puis... Il y a ça, et puis il y a le fait aussi de grandir un petit peu différent, de se sentir différent. Donc je pense qu'effectivement, c'est des personnages que je recherchais, moi, en littérature, et que je peins maintenant que j'en écris, oui.
Et en termes d'illustration, en ce qui me concerne, le personnage marginal, enfin, je pense que tout illustrateur, toute personne qui... Enfin, tout créateur, d'ailleurs, a une attirance pour ça aussi, parce que c'est la porte ouverte à beaucoup plus de possibilités et d'imagination, en termes de dessin.
Parce qu'il a un physique différent.
Peut avoir un physique différent. Parce que s'il est un petit peu marginal, c'est probablement parce que oui, il peut avoir des attributs qui vont être pointés du doigt. Et c'est là où moi je vais pouvoir un petit peu m'amuser, comme le Brutalone avec ses cornes dont une est cassée, comme avec le croque en mur qui a son haut de forme un petit peu déglingué et son petit look voilà étrange qui a l'air de défrayer les autres animaux de la forêt. Donc.
En tous les cas, vous êtes venu sur Mignon. Une autre des questions que j'avais, c'est qu'évidemment, quand on reçoit un texte de quelqu'un, le processus créatif est différent de quand on crée sa propre histoire. Est-ce que, parce que vous avez travaillé avec plusieurs auteurs différents, est-ce qu'il y a des choses différentes qui se passent selon qui a écrit le texte ou c'est vraiment une affaire d'histoire? Est-ce que la façon dont le texte est écrit va induire d'autres illustrations ou une autre manière de travailler?
Pas tout à fait, non. Je suis assez... non. Souvent, je reçois le texte.
Jérémy fait ce qu'il veut.
Jérémy fait ce qu'il veut. Non, mais c'est horrible de dire comme ça. Je sais qu'il y a tout un tas de collaborations, de types de collaborations possibles. Jusqu'à présent, dans les cas de figure dans lesquels j'ai été, j'ai reçu un texte et on m'a offert la possibilité de développer l'univers visuel que je voulais sans interférence. Et j'avoue que je suis plutôt à l'aise avec ça. Ça a l'air terrible, mais...
Ça ne l'est pas.
À ce stade-là de mon travail, peut-être que je changerai d'avis à un moment donné, je ne sais pas, mais j'ai une sorte de conviction que tout l'intérêt de ce que j'ai à proposer, c'est un travail d'interprétation et les dessins ne seront que plus qualitatifs si je m'assure que je vais chercher dans mes propres tripes et dans mes souvenirs, dans ma vie, dans mon expérience, dans mes voyages, ce que je vais pouvoir apporter moi. Et je trouve que la jonction, elle est intéressante à partir du moment où il y a ce sorte de pacte de confiance qui se fait entre l'auteur et l'illustrateur. C'est ce qui s'est passé entre nous deux. Et manifestement, Michael avait l'air d'être plutôt content.
Mais ce qui n'est pas une... En tout cas, pour les gens qui sont là, c'est ce qui n'est pas une habitude éditoriale, en fait. Tout le monde pourrait croire que c'est ce best-case scénario, mais ce n'est pas le cas. Très souvent, il y a des nombreux échanges, de nombreuses modifications. J'ai déjà rencontré, et je pense que vous aussi, des illustrateurs qui ont dû modifier leur travail. Ce n'est pas la bonne couleur d'écharpe, et ce n'est pas la bonne couleur, et ce n'est pas la bonne position, parce que les auteurs ont des visualisations très précises. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a dit au départ en me disant, moi, quand je fais un texte, je l'interprète de ma manière. C'était déjà comme ça qu'on travaillait sur les mémoires de la forêt. Donc, pour moi, ça n'a pas été une douleur du tout. Mais la grande nouveauté, c'était que j'avais, malgré tout, tout au cours de l'avancement des illustrations de Mémoire de la forêt, je recevais des illustrations par mail. C'était un petit peu le petit cadeau. Et puis, je les téléchargeais, je les trouvais jolies. Et puis, ça faisait vivre le livre en attendant sa vie en librairie. Parce que c'est vrai qu'il y a un temps éditorial très long. Parfois, on rend un texte et le livre ne sort pas avant 8 mois, 1 an. Donc, il n'existe plus et tu as envie qu'il existe un peu quand même. Et là, Jérémy m'a dit, est-ce que ça te va si je ne t'envoie absolument rien ? Ni couverture, ni, comme pourraient les appeler les jeux, dans le jeu vidéo, les character design, vraiment rien du tout. Et je lui ai dit, je pense que ce que j'ai écrit suffit pour que tu puisses l'interpréter. Et donc, j'ai découvert le texte. Il y a une réunion l'album terminé. J'ai découvert l'album terminé, oui, le texte. J'ai découvert l'album terminé la veille de le présenter aux représentants de l'école des loisirs. Il était déjà parti à l'impression où il allait partir.
Oh non, quand même. Je peux pas croire.
Non, mais c'était à deux semaines près, non ?
C'était peut-être la veille ou de l'impression, oui, peut-être 2 semaines. Je sais.
De toute façon, si modification j'avais, c'était pas possible. C'était vraiment. Mais c'était effectivement moi quand je travaille avec quelqu'un aussi, j'avais tellement confiance en son imaginaire. C'est pour ça que j'ai fomenté tout ce plan machiavélique pour qu'il dédicace dans ma librairie, en ayant vu son Instagram. Donc, je savais que ce dont il était capable. Et j'arrivais à me projeter.
Acheté par un goûter.
Non, mais en plus, ça semble...
Qu'il n'a pas trop aimé. Hein.
Ah mince.
Oui, c'était des pâtisseries japonaises.
Ah. Je comprends.
Non, mais en lisant le texte, c'est vrai que j'étais assez convaincue que j'allais... Ou en tout cas, je m'étais fait une promesse à moi de donner le meilleur de ce que je pouvais donner. Donc, je me suis dit, bon, je vais probablement pas me rater. Ça a l'air très prétentieux, dit comme ça, mais c'est pas l'état d'esprit dans lequel j'étais. Mais...
Dans quel état d'esprit tu étais quand tu as cliqué sur le mail ?
J'étais un tout petit peu stressé.
Tu m'as envoyé ça la veille.
Mais je me suis dit, bon, à la fin de mon travail, je me suis dit, bon, j'aurais pas pu faire mieux, donc voilà,
on verra. Bon, on est d'accord pour dire que c'était bien de se faire confiance.
Oui.
Il ne dit pas tout. Il ne dit pas que j'ai mis 10 minutes à l'appeler et qu'il a trouvé ça beaucoup trop long.
Ah, ouais. Je peux comprendre aussi. Bien. Alors, donc on en était à je lis le texte d'un autre et je l'illustre. Et alors, quand vous écrivez mignon tout seul, illustré mignon tout seul, et alors là, comment ça se passe ?
Ça se passe à peu près de la même manière, à vrai dire. Je me rends pas vraiment compte de... Ce que je peux dire, c'est que j'écris le texte totalement indépendamment des images. J'imagine que d'autres peut-être réussissent à passer de l'un à l'autre. Mais je commence avec un premier concept visuel que je vais avoir en tête. Mais ensuite, je priorise le texte. Je l'écris en entier. Quitte à me mettre des bâtons dans les roues dans un deuxième temps, parce que je me dis, ah mince, j'ai écrit ça et maintenant. Mais c'est la priorité. Donc vraiment, c'est en deux temps. J'écris le texte jusqu'à un point où je suis satisfait. Je le soumets à ma maison d'édition. Et ensuite, je me lance dans le chemin de fer et les illustrations, comme je ferais avec le texte de quelqu'un d'autre.
Et donc, quelle est l'histoire de Mignon ? De quoi s'agit-il ? C'est un album qui est sorti au mois d'octobre.
Oui.
Ce mois sombre.
Voilà, c'est un album d'Halloween, mais qui peut aussi se lire sur les autres mois de l'année.
Qui peut faire toute l'année, en effet.
Voilà, j'ai un grand appétit pour le cinéma fantastique depuis que je suis petit. Donc, c'est un album qui rend un peu hommage au cinéma de genre des années 80. Fantastique et parfois horrifique, et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Germain et qui vit dans une ville dans laquelle toutes les maisons sont hantées sauf la sienne, ce qui, à l'instar du croque-en-mur, en fait l'objet des railleries de ses camarades, jusqu'au jour où il découvre un grimoire dans son grenier qui lui promet que s'il récite telle incantation un soir de pleine lune, un monstre terrifiant apparaîtra. Ce qui ferait que lui pourrait enfin se la péter un petit peu auprès de ses camarades. Sauf que le jour où il prononce enfin cette incantation, c'est une petite bestiole toute mignonne à mi-chemin entre une chèvre et un chaton qui apparaît. Donc il est extrêmement déçu. Mais au fur et à mesure de l'histoire, il y a une une amitié hors du commun. C'est aussi un petit peu la thématique du Brutalone, c'est un petit peu cette thématique-là aussi ici, qui va naître entre les deux personnages jusqu'au soir d'Halloween en question, où il va y avoir une sorte de révélation amusante. Et voilà.
Amusante ou assez proche du Gremlins, en fait.
Oui, il y a ces références-là. Des petits traumatismes d'enfance un petit peu voilà, dispersés dans l'album.
Alors, un peu d'inspiration, c'est quand même beaucoup de... Alors, c'est étonnant, effectivement, un livre qui peut être lu par les enfants et qui pourront passer à côté de ces références cinématographiques qu'a priori, ils ne doivent pas avoir, normalement, pas encore. Mais en même temps, quand on regarde l'image, c'est un véritable cherche-trouve pour plus grand, parce que c'est pas quelques références cinématographiques, c'est beaucoup. Donc, on en parlait tout à l'heure, je pense que j'en ai pas vu la moitié, et des références et des films. En tout cas, Freddy qui m'a sauté aux yeux, Amityville, Chucky, L'Exorciste, mon traumatisme à moi, ça que j'ai bien repéré. Donc l'idée, évidemment, c'était de faire un hommage. Donc déjà, on peut le dire, c'est quand même un hommage plutôt au film des années 80.
Oui, parce qu'en fait, j'y pense en y repensant, en en parlant, mais moi, quand j'étais petit... J'étais très attiré du coup par ce cinéma-là que mes parents m'interdisaient de regarder, bien évidemment. Mais je demandais à ma mère, oui, on pourrait pas regarder ça, ça, ça. Elle a attendu l'âge approprié. Mais j'aime bien cette idée aussi du parent qui... Parce que j'ai un couple d'amis dont les deux garçons petits sont aussi attirés par le cinéma d'horreur. Et il y a cette espèce de connivence, du coup, ce qui se crée, cette petite esthétique du vidéoclub de quand on était petit et qu'on partage avec ses parents en secret. Je trouve ça plutôt... Ce sont des films horrifiques, mais finalement, là-dedans, il y a la beauté et l'innocence d'un moment partagé avec sa famille. Et cet album, il est un petit peu imprégné de ces souvenirs-là qui, pour moi, sont chers.
Et est-ce que vous pensez que cette passion et ces nombreux films ont influencé l'esthétique de votre travail ? Oui. Alors, pas que sur cet album, mais de manière générale.
Oui, je serais incapable de dire comment. Michael, tout à l'heure, parlait d'un petit peu de ténèbres dispersées. Moi, quand j'étais petit, j'étais autant fan des classiques de Disney que, justement, des films d'horreur bourrés d'effets spéciaux et de monstres terrés dans les placards. Donc, je me situe vraiment à mi-chemin entre ces deux-là. Pour moi, il n'y a aucune incohérence ni contradiction. Le gros point commun, le socle commun, c'est le monde des possibles, l'imaginaire, Et même chez les monstres, il y a toujours cette part de mystère et de beauté. Bon, dans les films d'horreur, c'est une part de beauté qui est camouflée sous parfois un petit peu de gore, mais je ne suis pas intéressé par le gore, d'ailleurs. Je suis plus intéressé par les monstres fantastiques. Mais est-ce que ça répond à la question ? J'ai perdu la question.
Oui. Bon. C'était sur les influences, dans l'esthétique.
Oui, je pense que c'est présent. Je ne saurais pas exactement dire comment, mais...
Il y a la foisonnance, il y a alors c'est pas un mot, mais il y a le fait que les végétaux soient parfois arthritiques, parfois florissants, il y a tout ça dans...
Il y a peut-être une certaine forme de mélancolie, je sais pas, c'est peut-être que mélancolie, c'est un mot qui fait le lien entre la magie de l'innocence et du merveilleux et la noirceur.
Michael, une petite passion pour les films d'horreur ?
Alors, oui. Ce qui est assez étrange, c'est que je regarde beaucoup de films d'horreur, je lis beaucoup de polars très très noirs, mais c'est pas du tout ce que je produis. Et je détesterais avoir à produire quelque chose.
Ça serait vraiment très cool.
Ça serait rigolo. Faudrait s'y mettre, mais quoique mon prochain projet a une part de ténèbres. Mais
enfin, Mémoire de la forêt, c'est quand même aussi un petit peu imprégné de moments difficiles. Après, ça dépend aussi ce qu'on qualifie d'horreur, ça dépend, enfin...
Bah, effectivement, Mémoire de la forêt, c'est marqué par l'horreur de la vie, par la maladie, par le fait que la vie est parfois un antagoniste suffisant et qu'il y a des choses qui sont très, très dures et donc il n'y a pas besoin de créer de méchants ou d'horreur. Mais moi, j'ai une fascination pour le cinéma avec de vrais méchants, avec de vrais monstres. J'adore lorsqu'on dépeint tout le processus psychologique qui a pu mener à à la transgression. Enfin, oui, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est une psychologie extrêmement
fine. Même ne serait-ce que dans les grands classiques Disney, on préfère toujours tous les méchants. On préfère Jafar, on préfère Ursula. Ils ont tous plus un look plus extravagant. Ils sont toujours plus mémorables.
Après, c'est peut-être parce que dans Mignon, qui est Mignon finalement, où là l'horreur n'a pas, elle est induite et mais même en fait le réconfort de ce petit bonhomme, c'est quand même de regarder un film d'horreur. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui est traité sans que ça puisse être traumatisant. Mais au final, je me disais, on est presque plus à parler d'esprit. Et c'est là que, parce que ce soit l'esprit, parce que finalement, Michael, si on part du principe que les renards marchent et parlent, et tous les animaux, en fait, c'est quelque chose d'assez réaliste, mais il plane souvent une idée d'esprit qui regarde effectivement les ancêtres, les disparus qui sont là. Et dans Mignon, ce petit Mignon, ce petit monstre vert, finalement, devient un esprit un peu bienfaisant pour le petit garçon. Et donc, je me demandais si on n'est pas à la limite du merveilleux dans les deux cas, plutôt que du fantastique, en l'occurrence. Enfin, moi, le merveilleux, c'est toujours quelque chose d'assez qui permet de modifier beaucoup les récits. Et bon, évidemment, dans Le Croque-en-Mur, c'est un petit peu pareil.
C'est vrai que ça a été très difficile de trouver les limites. Et dans le travail éditorial... Mon éditeur me disait souvent, alors oui, je comprends tes aspirations, je comprends tes envies de parler de transmission, de souvenirs, mais parfois il faut que tu raccroches, faut que tu le raccroches au récit. Dans le tome 4, effectivement, de Mémoire de la forêt, il y a ces personnages, il y a deux apparitions qui vont aider la jeune génération à traverser, à leur donner un enseignement passé pour s'en sortir là, au présent. Et mon éditeur me disait, mais ça, il faut qu'on le rattache à quelque chose, parce que ton récit, tu n'as pas habitué les gens au merveilleux, tu l'as fait une fois, mais c'était vraiment un détour que tu avais pris, mais là, il faut que tu le raccroches. Donc, c'est comme ça que sont apparus le petit Ernest, en fait, quand il monte sur son chemin. Il a un peu de fièvre, et ce personnage-là, en fait, il dort. Mais c'est vrai qu'il y a des codes très précis que je pense qu'on est assez naïfs, nous, dans la manière dont on crée et dont on consomme la littérature, mais c'est vrai que c'était précieux d'avoir l'avis de l'éditeur sur quels sont les codes du merveilleux et comment on y fait appel. Oui.
Rien de plus sur le merveilleux. Mais ou pas, hein. C'est bien.
Non, pour moi, c'est vraiment plus un petit démon qu'un esprit, déjà, je dois dire. J'étais vraiment plus sur un petit diablotin, protecteur, mais diablotin quand même.
Ah bah, après, il a ce côté gentil démon, enfin,
un petit peu
des deux.
Dans le design, oui. Voilà, je dois dire que je me suis laissé embarquer moi-même dans la construction de l'histoire sans tout à fait... me focaliser sur un genre ou sur un autre, je me suis laissé libre de suivre mon instinct.
Oui, non, c'est notre défaut, hein, de toujours vouloir tout expliquer.
Ah, nous, on analyse tout après.
Hein. Ah,
on produit d'abord, oui, et c'est ensuite, quand on va dans les classes avec les enfants, qu'on comprend ce qu'on a fait.
Je comprends. Et moi, je suis là pour aller tirer le fil. Enfin, très bien. Je n'ai pas de pont. Hein. Je crois que je n'ai pas trouvé de bonne transition. Donc, sans transition. Ah, si, le travail avec Loïc, l'éditeur. Je pense que c'était une bonne transition, mais je ne l'ai pas prise au vol. Parce qu'on va quand même un petit peu parler de ce collector des Mémoires de la forêt. Je regarde, hein, parce que l'heure passe, l'heure tourne. Donc, ce collector, je disais tout à l'heure, c'est très, très joli, qui donne même envie de le relire à ceux qui l'ont déjà lu. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez mis à l'intérieur, en dehors du fait d'avoir un signé, une jolie couverture, parce qu'il y a deux petits passages inédits. J'avais envie qu'on en reparle, parce que d'abord, c'est toujours un plaisir de découvrir des textes inédits d'une série qui s'est terminée, mais c'est surtout que c'est pourquoi ces morceaux n'apparaissaient pas dans la première édition.
En fait, Mémoire de la forêt, au tout départ, c'est une série pour les 9-12 ans, qui, on s'est rendu compte avec les personnes présentes ici et avec la sortie, que le public était nettement plus large. Et le problème, c'est qu'à l'écriture, moi, je voulais vraiment J'avais un objectif, c'était d'essayer de toucher tout le monde. Alors ça, c'est l'objectif un peu casse-gueule, parce qu'à vouloir toucher tout le monde, on peut ne toucher personne, parce qu'il y a des livres que, quand on les destine à deux publics, ils ne rencontrent ni l'un ni l'autre. Un livre trop enfantin, les adultes ne vont pas pouvoir le lire, et un livre trop triste, trop compliqué, trop réaliste, les enfants ne vont pas forcément se laisser séduire. Et donc moi, j'avais cette envie de créer un livre qui pouvait à la fois plaire aux enfants et aux adultes, qui étaient les gens avec qui j'avais travaillé en tant que psychologue, et je voulais que mon livre puisse servir d'outil, parce que son sujet, c'était la mémoire qui s'en va, parce que j'avais été psychologue, et je voulais vraiment toucher les deux publics. Et donc, dans la construction, j'étais vraiment... ça a été une construction très agréable pour moi, mais les corrections éditoriales l'ont été nettement moins, puisque l'École des loisirs, lorsque je leur présente ce projet, me dit « faut qu'on coupe, c'est beaucoup trop long, ça fait 400 pages ». Il y a des moments qui sont vraiment presque trop pénibles à lire parce que c'est de la... pour un enfant, on se met à la place d'un enfant, il y a de la psychoéducation, il y a un moment où le narrateur dit accompagner quelqu'un atteindre la maladie d'oubli tout, c'est trois petits points, et puis il y a une métaphore, et à chaque fois on sort de la narration pour aller dire un petit quelque chose de l'ordre de la psychoéducation, et tout ça, il a fallu l'équilibrer. Et donc, dans ce travail éditorial, j'aime dire que Loïc, mon éditeur, a pris son grand sabre de samouraï, il a tranché dans le gras, et il a dû enlever beaucoup de passages sur les personnages secondaires, et dont deux chapitres entiers. Donc, dans cette édition Prestige, en fait, moi, je la considère un peu comme mes carnets secrets. C'est-à-dire que dans chaque volume, je vais pouvoir mettre des textes qui ont un rapport de très près, comme dans celui-ci, ou de plus loin, avec Mémoire de la forêt, qui sont des textes que j'ai écrit soit inspiré par l'univers des Mémoires de la forêt, soit, donc, vous allez avoir dans le tome 2 un début de roman, dont j'ai écrit un tiers. Dans le tome 3, vous allez avoir un album jeunesse, que je n'ai jamais publié, mais que je trouvais trop proche des Mémoires de la forêt pour être publié. Dans le tome 4, il va y avoir une version différente du début de ce tome 4. Et dans ce tome 1, il y a deux chapitres qui sont deux chapitres basés sur deux personnages féminins que moi j'adore, qui sont Charlotte Souris et Louison Blaireau. Et ce que j'aimais dans ces chapitres, c'est que c'était pour moi, ça faisait une pause que moi je réclamais en tant qu'écrivain sur l'aventure, mais que les enfants, apparemment, d'après la connaissance de mon éditeur, quoi,
L'expertise,
c'est le mot que je cherche, merci, ne servait pas à la narration parce que ça nous arrachait au voyage pour revenir un peu en arrière. Donc on voit Charlotte Souris qui essaie de se débrouiller dans la librairie, qui est décidément beaucoup trop narcissique pour être libraire et beaucoup trop attachée à ses goûts à elle. Et il y a un autre chapitre que j'adore, qui est le chapitre de Louison Blaireau, qui est un chapitre qui est pour moi... je crois que j'avais lu Jane Austen un peu avant et j'étais là, je veux vraiment un chapitre austénien de cette modiste qui est là à créer des chapeaux, à pas vouloir sortir de chez elle, à attendre quelque chose, mais elle sait pas vraiment ce qu'elle attend. Puis un jour, ça frappe à sa porte. Et c'est une histoire d'amour déçue. Et j'étais ravi. Cette édition, c'était l'opportunité, de par sa forme et de par son existence même, de pouvoir mettre ces deux chapitres. Et en fait... quand je l'ai annoncé, je me suis fait un peu engueuler en me disant « Mais attends, ça veut dire que ce premier tome, c'est un tome amputé, il est incomplet. Vous nous avez vendu un tome qui n'était pas complètement terminé. » Je dis « Si, c'est juste qu'on ne pouvait pas le mettre là. » Et donc là, on a pu les mettre. Et alors, je ne sais pas quelle impression ça donne, parce que je n'ai pas osé le relire en entier. Je ne sais pas quelle impression ça donne, si ça se lit facilement au récit ou pas, ou si ça arrache les enfants à leur voyage. Mais en tout cas, je suis très heureux, très égoïstement, qu'ils soient là.
Alors, moi, je ne suis pas une enfant, donc je trouve qu'on est arraché à rien et qu'effectivement, il y a une petite respiration. En l'occurrence, la souris, on la retrouvera plus tard. Donc, ça donne encore une autre idée. Et puis, je pense qu'on se posait tous la question de savoir comment ça s'est passé dans la librairie pendant l'absence. Donc, moi, j'étais plutôt ravie. Et puis j'imagine, mais ça, c'est une lecture, effectivement, d'adultes et de libraires. On verra avec les enfants tout à l'heure si certains ont lu ces chapitres. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est... ça fait partie justement du collector et je pense que c'est quelque chose c'est pas qu'il était incomplet, mais d'avoir ces petits fils en fait, c'est le même plaisir que de voir une préquelle de série ou une pas de
roman. Oui, c'est un behind the scenes en fait, c'est ça qui est hyper intéressant et c'est ça que ça me permet de faire. Parce que produire du contenu nouveau, j'aurais eu l'impression d'une certaine artificialité, alors que là, c'est vraiment le témoignage d'une période de ma vie qui se termine, et je vais passer à autre chose. Mais regardez, il y a eu foisonnance pendant cette période quand même.
Et alors, je me faisais une réflexion en les relisant, parce que je pense que je n'avais même pas du tout percuté la première fois, parce qu'il y a énormément de personnages. Est-ce que vous savez combien il y a de personnages en tout ?
Aucune idée.
Ah, personne.
Aucune idée. J'ai beaucoup de lecteurs qui nous ont remerciés pour l'arbre généalogique, parce que ça devenait vraiment difficile.
Je peux comprendre. Donc, on ne sait pas. Moi non plus, je n'ai pas compté. Mais dans le premier tome, notamment, avant l'arrivée de Bartholomée, en fait, il n'y a pas d'enfant dans ce livre pour enfants. Et c'est étonnant, mais je ne m'en étais absolument pas fait la réflexion il y a 4 ans. Est-ce que c'était quelque chose de conscient ? Est-ce que c'est un choix ? Ou pareil, c'est venu comme ça ?
C'était parfaitement inconscient. On s'est rendu compte C'est quand j'ai commencé à écrire le tome 2 et lorsqu'on a commencé à en parler avec mon éditeur, qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun vecteur de projection pour les petits sur Mémoire de la forêt, tome 1. Et finalement, on a commencé à se demander, mais comment ça se fait que les enfants ont accroché ? Et c'est une question qu'on se pose relativement souvent. Et moi, je l'ai mentalisé vraiment avant l'écriture du tome 2. Et j'ai eu envie d'y mettre cette part de jeunesse avec le personnage de Bartholomée. Et c'est à partir de là que c'est devenu conscient. C'est assez terrible, en tout cas dans l'écriture. Il y a ce premier livre qu'on écrit, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi dans le dessin, mais il y a ce premier livre qu'on écrit de manière ultra naïve. Ce n'est que du plaisir. C'est vraiment, il y a comme une inspiration divine. Les chapitres viennent tout seuls. Enfin, vraiment, moi, je l'ai écrit le premier, j'étais sur un petit nuage. Je n'ai pas réfléchi longtemps, tout prenait sens. Ça allait très, très vite. Et puis pour les 3 autres, ça a été l'horreur. L'horreur de se dire, est-ce qu'on ne va pas gâcher quelque chose en produisant une suite. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment analyser le succès ? Comment analyser la réussite d'une narration ? Est-ce qu'on la reproduit ? Est-ce qu'on la change ? Ça a été terrible. Mais effectivement, à l'heure où le premier était écrit, aucune analyse. Tout est venu après.
Est-ce que c'est cette difficulté qui vous a amené à modifier la forme ? C'est pareil, ça je l'avais pas. En fait, de relire tout à la suite, ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas tous les ans. Et le tome 1 est relativement linéaire. Hein. On suit Ferdinand et Archibald, ils sont quasiment là à tous les chapitres. En revanche, les autres sont beaucoup plus bâtis, comme des intrigues. On est sur du suspense, on est sur des méchants. Est-ce que ça, c'était une volonté aussi de changer ? Est-ce que vous avez tourné autour ou il y avait une inspiration particulière ?
J'ai essayé de m'améliorer. J'ai essayé de m'améliorer tout simplement en me disant tu ne peux pas proposer plusieurs fois le même livre et tu vas essayer de trouver des narrations plus complexes. Le tome 3 est assez complexe dans sa narration et c'est assez rigolo parce que souvent, je rencontre des enfants en dédicace et ils ont toujours des questions à me poser sur le tome 3. Et donc, je leur dis, mais viens me voir dans l'oreille. Puis, il me dit, alors, il y a ce personnage-là. Alors, est-ce que... Là, je réponds, oui, exactement. Et c'est assez rigolo parce que... En fait, c'est devenu de moins en moins... spontané, mais de plus en plus construit. Et je pense qu'il y a une volonté d'ambition narrative, une ambition de surprendre. Je pense que dans le tome 4, il a surpris aussi pour le moment où il a fait pleurer. Il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient tranquillement à pleurer à la fin dans Mémoire de la forêt et qui ont commencé le tome 4 et qui ont fini en larmes au début parce qu'il y avait cette volonté de toujours chercher à me dépasser. C'est difficile de... En tout cas, lorsque... Enfin, c'est difficile. Pauvre de moi, mon premier livre a eu du public. Mais c'est vrai que quand quelque chose a plu, on doit trouver le juste milieu entre proposer de la nouveauté et se donner un défi. On en parlait dans le train et c'est vrai que c'est assez difficile de trouver ce juste milieu.
Je crois que la suite a prouvé que le public avait été au rendez-vous. Je me disais aussi, Renard, Archibald, il a lu des centaines de fois L'aventurier qui voulait atteindre des sommets. Et c'est un livre qu'il lui suit depuis son enfance. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez un livre comme ça qui est...
Non.
Et un film, alors ?
C'est extrêmement déceptif.
J'aurais dû poser la question avant.
J'ai grandi avec baignant dans le cinéma, majoritairement.
Eh ben, le film
Doudou,
qui vous a confié, le film Doudou.
Ça, c'est pareil, j'en ai plusieurs. Ah, est-ce que je peux en avoir 3 ? Oui. Je sais pas.
C'est possible.
Édouard Main d'Argent reste voilà, un incontournable. Casper, on en parlait tout à l'heure, ça en fait partie aussi. Et après, bon, il y a toute une ribambelle, mais ça fait partie de mes premiers chocs, justement, en termes d'émotion. Toute la série des petits pieds, le petit dinosaure dans la vallée des merveilles, ça, voilà. Je pense que quand on a grandi avec ça, qu'on a vu ça pour une première fois, tout l'étoile d'arbre, etc., ça reste ensuite.
Je peux pas dire que... Alors, moi, j'ai pas d'œuvre phare dans le sens où, en fait, tout ce que j'aimais petit, je l'aime toujours maintenant. C'est-à-dire que je n'ai pas grandi et que chez moi, on trouve toujours des figurines de Power Rangers. Tout est là, en fait. Donc, il y a toutes ces licences ou ces univers qui m'ont accompagné et qui m'ont jamais quitté. Et en littérature pure, je pense que le livre que j'ai relu plein de fois et qui... Enfin, il y a deux choses. En littérature, ça serait Les Enfants de Tinkleback, que j'adore. J'ai jamais vu le film, j'ai jamais voulu regarder le film, mais j'adore ce livre. Et je pense qu'en BD, les Picsou, de Don Rosa en particulier, la jeunesse de Picsou, je les ai toujours trouvés incroyables, je les ai relus des centaines de fois. J'adore le trait de Don Rosa, déjà, il a beaucoup d'humour, ses traits sont très marqués par rapport à Karl Barks, etc. Et puis finalement, c'est aussi lui qui donne le plus d'émotion, je pense. Lorsque... Ouais, une belle histoire familiale, la famille des Scrooge McDuck.
Je crois qu'en fait, je parlais de vos traits communs. Je me dirigeais gentiment vers la conclusion, mais en disant que je pense que vous écrivez tous les deux pour le petit garçon que vous étiez. Hein, sans aucun doute.
Je pense que oui.
Et donc, c'est forcément quelque chose qui...
D'ailleurs, si je peux me permettre de vous couper, oui, vous pas plus tard qu'il y a... Là, je suis en train de finaliser un prochain album. Et... On nous demande souvent de le dédier à quelqu'un. Jamais j'oserais le faire, mais des fois dans ma tête, je me dis, cet album, c'est oui pour le petit garçon que j'étais. Si j'avais pu mettre ça dans le mignon, c'est peut-être ce que j'aurais fait, parce que clairement, le petit garçon dans ces films d'horreur, c'était aussi un petit peu moi.
Pont extraordinaire, merci beaucoup, parce que je me dis qu'on ne peut pas se quitter sans parler de vos projets futurs. Donc cet album, on peut en savoir un peu plus ou c'est...
Oui, bien sûr. Il sortira en avril prochain. Je suis un peu un inconditionnel de l'Indonésie. Je suis allé de nombreuses fois et du coup, c'est un album que j'ai fait et qui se passe à Bali et qui met en scène un petit gecko qui a peur ou qui est inconfortable à l'idée de sortir à l'extérieur et qui va reprendre goût au plaisir simple de la vie.
Et j'ai vu des premières images et c'est absolument magnifique.
Et je dis gecko, d'ailleurs. Merci Mickaël. Je dis gecko, il y a des gens qui disent gecko, moi je dis gecko, je ne sais toujours pas.
Je suis team gecko, mais...
Bon, d'accord. C'est cet animal-là.
Okay. Moi je dis gecko.
C'est vrai, bon.
Mais il n'y a pas de U. Hein.
Et moi, il va y avoir deux sorties. Il y aura un texte d'album l'année prochaine et évidemment la suite des éditions Prestige. Et pour le prochain roman, je pense qu'il faudra attendre début 2027, le temps que... pour ne pas faire des embouteillages. Ça serait intéressant. Mais le prochain roman sur lequel je travaille, je l'ai déjà annoncé il y a un petit moment, c'est un roman qui a pour nom de code Elliot. Et c'est mon projet le plus ambitieux à ce jour. Ça sera mon projet le plus long à ce jour. Je souffre pour chaque ligne, mais j'espère vraiment que ça sera le meilleur.
Et au niveau du public ?
Et au niveau du public, on sera juste après. On sera en médium. C'est-à-dire que là, j'étais sur 9-12 et je vais essayer de récupérer mes enfants de 12 ans. Je pense que je suis sur la même tranche que J.K. Rowling, milieu de carrière. Enfin, vraiment, juste là, juste après.
Très bien.
Vous avez un nom précis, je crois, pré-adolescent ou...
Oui, on peut appeler. Non, alors, non, la pré-adolescence, ça commence à avoir. Non, pour moi, ce sont des ados, ça. Ouais. Et après, ça devient des jeunes adultes. Voilà. Donc on écrit là, vous écrivez pour les ados.
Pour les, ouais, les ados.
Ouais, c'est pas les plus faciles, mais je suis sûre que ça peut aider à les faire lire.
Et ça sera un projet merveilleux / fantastique. Vous nous direz.
Plus tard. J'analyse ça finement pour la prochaine rencontre. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tous les deux. Je vous regarde, c'est mieux quand je vous le dis. Je regardais l'heure, mais ça se fait pas. Merci Jérémy, merci beaucoup. Mickaël. Merci d'être venu, merci de les avoir écoutés. Et je vais vous laisser le micro si vous avez des questions pour ces messieurs.